Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Ce matin, je vous propose de réagir à la libération du principal opposant camerounais, Maurice Kamto, après 9 mois de prison. Le candidat malheureux à la présidentielle d'octobre 2018 était accusé de rébellion, d'insurrection ou encore d'outrage au président de la République après avoir organisé plusieurs manifestations pour dénoncer le résultat du scrutin de l'année dernière. Son procès devait reprendre aujourd'hui même, ce mardi. Seulement voilà, vendredi, le président Paul Biya a pris tout le monde de court en ordonnant l'arrêt des poursuites judiciaires contre plusieurs responsables politiques. Alors que vous inspire justement ce geste du chef de l'État ? Dites-nous si la libération de Maurice Kamto permettra de décrisper les tensions politiques. Voilà un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes nombreux à nous appeler évidemment du Cameroun ce matin. Vos réactions, vos analyses, 33 9 693 693 70 et continuez évidemment à poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité. Marcelin nous a contacté de Libreville. Bonjour Marcelin.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous avez des questions sur le président gambien Adama Barrow?
Oui, ma préoccupation, c'est le président gambien Adama Barrow, qui s'est engagé lors de son élection en 2016 de quitter le pouvoir au terme de 3 ans d'exercice. Mmh. Aujourd'hui, à 2 ans, 8 mois d'exercice de pouvoir, il souhaite aller au terme de son mandat de 5 ans.
Oui.
Bon, ma première préoccupation, comment expliquer ce revirement de la dernière minute?
Mmh. C'est vrai que au moment de son élection il y a 3 ans, en 2016, Adama Barrow avait convenu de se retirer au bout de 3 ans. Et visiblement, il entend bien aller jusqu'au bout de son mandat de 5 ans. Bonjour Romain Chanson.
Bonjour.
Correspondant de RFI en Gambie. Expliquez-nous pourquoi le président gambien a changé d'avis.
Alors d'abord, il y a un sentiment d'inachevé, hein, un mandat de 3 ans, c'est insuffisant pour mettre en place sa politique, pour observer des résultats, c'est bien normal. D'autant plus qu'Adama Barrow, c'est un petit jeune en politique, c'est pas un technocrate, il apprend à diriger. Et c'est aussi la Gambie tout entière qui apprend la démocratie, puisqu'elle tourne la page de 22 ans de dictature, avec tout ce que ça implique de bouleversement. Donc l'argument d'un mandat inachevé au bout de 3 ans peut s'entendre. Ensuite, il y a l'argument constitutionnel. La constitution gambienne, elle stipule que le mandat présidentiel, il dure 5 ans. Argument suprême qu'il est difficile de contrer. Adama Barrow, il est dans son bon droit. L'accord sur un départ au bout de 3 ans, qui avait été conclu avec la coalition 2016, il ne pèse pas grand-chose face à la constitution. D'ailleurs, ceux qui ont élaboré cette promesse de 3 ans de mandat dit transitionnel ont rappelé que c'était une simple stratégie politique. À l'époque, il faut se rappeler qu'en 2016, lors des élections, Adama Barrow et la coalition, ils étaient loin de penser qu'un jour, ils pourraient accéder au pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, ils doivent se mordre les doigts d'avoir fait une telle promesse.
Effectivement. Donc, revirement de la part du président Adama Barrow. Vous avez d'autres questions, Marcelin?
Oui, la deuxième question. La coalition, l'Alliance nationale de la démocratie et du développement, qui l'a portée au pouvoir, soutient, corrobore-t-elle cette décision?
Ah, comment réagit effectivement la coalition qui a permis à Barrow de remporter la présidentielle?
Alors, la majorité des représentants de la coalition ont donné leur feu vert pour que le président Barrow termine son mandat, sauf qu'il manque à l'appel 2 partis importants, dont l'ancien parti politique d'Adama Barrow, l'UDP, le Parti démocratique unifié, qui refuse désormais d'être associé à cette coalition de 2016, et donc de signer un quelconque document, une quelconque prolongation de mandat. Et il faut admettre que cette coalition de 2016, elle ne pèse plus grand-chose si on enlève l'UDP. L'UDP, c'est le premier parti politique gambien avec une large majorité de députés à l'Assemblée nationale. L'UDP qui joue un drôle de jeu ces derniers temps, le parti le critique ouvertement à Adama Barrow, il fait même passer pour un incapable, et en même temps le parti n'appelle pas à sa démission, enfin pour le moment.
Oui, enfin il y a tout de même des voix, Romain, qui appellent à la démission du président.
Oui, c'est vraiment un petit mouvement de la société civile baptisé Three Years Jotna. ça signifie 3 ans, ça suffit, et qui militent pour que le président il tienne sa promesse. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont réussi un tour de force ici en Gambie. Ils ont réussi à imposer cette question du mandat dans le débat public. Tout le monde en parle. Leur argument principal est simple, c'est de dire, si vous trahissez votre promesse électorale, c'est un très mauvais signal pour notre jeune démocratie. Alors, ils comptent manifester au mois de décembre pour la date anniversaire des 3 ans de mandat d'Adama Barrow. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les manifestations, elles sont très rarement autorisées en Gambie. Donc si la manifestation de décembre venait à être interdite ou réprimée, il fera en quelque sorte la démonstration qu'Adama Barrow n'est pas un ami de la démocratie. D'ailleurs, cet été, les forces de l'ordre ont fait l'acquisition d'un camion à eau. Un camion à eau, c'est pour intervenir lors des manifestations. Et pour certains, ça y est, c'est la preuve de la fébrilité du gouvernement à l'approche du mois de décembre. Alors ce qu'on va faire, c'est que Marcelin et les autres auditeurs, je vais vous donner rendez-vous au mois de décembre. On saura au mois de décembre si l'opposition au président Adama Barrow, elle est réelle. Ou si cette question du mandat de 3 ans n'était qu'une polémique stérile.
Donc rendez-vous au mois de décembre. Marcelin, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, j'ai quand même écouté, mais c'est un peu semi-expliqué parce que il y a une situation qui est un peu pertinente là. Parce que je comprends pas comment, parce que c'est un engagement personnel, c'est pas un engagement constitutionnel. Donc il a pris cet engagement pendant qu'il prêtait serment au Sénégal à l'ambassade de Gambie.
Et pour vous, Marcelin, il y a donc quoi ? Une sorte de trahison de la part d'Adama Barrow ? Le non-respect de la parole ?
J'ai l'impression qu'il est en train de marcher, dans la ligne de Diamé. J'ai l'impression.
Vous caricaturez un peu, on est quand même loin. Le régime de Barrow ne ressemble en rien au régime de son prédécesseur, Diamé. Bon, on n'est pas là pour débattre, on est là pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité, mais c'est intéressant malgré tout de vous avoir entendu. Bonne journée Marcelin, merci de votre fidélité à Libreville et on remercie évidemment Romain Chanson, correspondant de RFI en Gambie. Il est 10h17 à Paris, vos questions à la rédaction, Trésor, bonjour.
Bonjour, monsieur Van Gonel.
Vous êtes à Kisangani, on va tendre l'oreille. J'ai comme l'impression que le réseau téléphone n'est pas très très bon. Allez-y, Trésor. Vous avez des questions sur les relations entre les États-Unis et la Somalie?
Effectivement, monsieur Van Gonel, les États-Unis viennent d'annoncer la réouverture de l'ambassade américaine à Somalie 28 ans après. Qu'est-ce qui était à l'origine de la détérioration des relations entre ces deux pays?
Alors, je me fais quand même votre porte-parole. Comment expliquer que les États-Unis décident de réouvrir l'ambassade américaine en Somalie après 28 ans de fermeture? C'est une bonne question que vous posez, effectivement, Trésor. Bonjour Sébastien Nemeth.
Bonjour Juan, bonjour à Trésor.
Correspondant de RFI dans la région, faut rappeler qu'à l'époque en 1991, lorsque les États-Unis décident de fermer leur ambassade, la Somalie était plongée dans la guerre civile.
Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une fermeture, c'est à cause des violences qui se déroulaient dans le pays. C'était pas une détérioration des relations entre la Somalie et les États-Unis, mais une détérioration de la situation somalienne. 91, les Américains décident de fermer leur ambassade pour des raisons de sécurité. Quand on y repense, c'est un peu comme un scénario de film hollywoodien. Rouen, à l'époque, les groupes armés affrontaient les troupes du dictateur Siad Barre qui était au pouvoir. Les violences s'étendaient jusque dans la capitale. Le 1er janvier 91, l'ambassadeur américain demande à Washington d'évacuer. Et quelques jours plus tard, des hélicoptères transportent 281 personnes par hélico, donc jusque sur des porte-avions stationnés au large, et évacué vers Oman. On a baptisé ça l'opération Eastern Exit. Puis ensuite, l'ambassade a été envahie par des pilleurs et ça a été l'anarchie en Somalie.
Ah, comment expliquer la réouverture de l'ambassade aujourd'hui, en 2019?
Alors, il y a toute une série de raisons. Déjà parce que l'instabilité de la Somalie, elle s'est réduite. Aussi parce que les islamistes Chebab ont reculé. Alors, tout n'est pas parfait, tout ça est quand même relatif. Mais les progrès ont été indéniables. Et puis, les États-Unis ont toujours vu la Somalie comme un pays un peu stratégique. Hein. On est au bord de la mer Rouge. Il y a une grande partie du commerce maritime qui transite. On est en Afrique de l'Est, en face de la péninsule arabique, où les enjeux géopolitico-militaires, comme on dit, sont énormes. Il y a le Yémen, il y a l'Iran, etc. Donc c'est une zone cruciale. D'ailleurs, la présence militaire américaine en Somalie, elle n'arrête pas de se renforcer. Les Américains ont plusieurs bases là-bas, plus ou moins secrètes d'ailleurs, et elles grossissent au fur et à mesure des années. Washington fait aussi de plus en plus de frappes aériennes contre les islamistes Shebab, à l'aide de drones surtout, qui décollent depuis ces bases dont je viens de parler. Donc pour toutes ces raisons, avoir une ambassade là-bas, c'est important. Mais sa réouverture a pris quand même plus de deux décennies, hein, durant lesquelles les relations entre États-Unis et Somalie avaient plus vraiment un caractère formel, surtout parce que la Somalie, comme j'ai dit, est restée longtemps dans le chaos. C'était ce qu'on appelle un État failli, Juan.
Oui, et puis on rappelle également dans les relations entre la Somalie et les États-Unis, ce traumatisme aussi de 1993, la bataille de Mogadiscio, au cours de laquelle deux hélicoptères américains ont été abattus par des miliciens. Et on se souvient de ces 18 soldats américains tués, dont les cadavres ont été traînés dans les rues de la capitale. Ces images avaient choqué l'opinion publique. D'ailleurs, cette scène, cet épisode malheureux a été immortalisé au cinéma, pour ceux qui s'en souviennent. Probablement, vous avez peut-être vu le film de Ridley Scott, La chute du faucon noir. En quelques mots, Sébastien Lemaître, ça veut dire quoi? Que malgré l'instabilité de la Somalie, les Américains n'ont finalement jamais véritablement coupé les liens avec ce pays?
Jamais vraiment, hein, parce que dès juillet 92, on est là 18 mois seulement après la fermeture de l'ambassade, les Américains ont pris la tête de l'UNITAF, qui était une force de l'ONU destinée à sécuriser le sud du pays pour permettre l'accès à l'aide humanitaire. On a aussi appelé ça l'opération Restore Hope. Et pendant plusieurs années, Washington a participé comme ça à des opérations humanitaires. Ils ont travaillé sur des médiations, sur la réconciliation, jusqu'à l'arrivée en 2004 d'un gouvernement de transition, qui au début d'ailleurs n'était même pas à Mogadiscio, hein, à cause de l'insécurité. Alors il y a eu la prise du pouvoir de l'Union des tribunaux islamiques en 2006, l'invasion éthiopienne en 2007, la montée en puissance des terroristes Shebab. Je passe rapidement, mais voilà, une forte instabilité. Et les choses ont changé peu à peu au fil des ans, avec l'intervention de la force africaine AMISOM en 2007, le recul des groupes armés, notamment dans la capitale, et jusqu'à janvier 2013, sous Barack Obama, où les États-Unis ont reconnu à nouveau le gouvernement somalien. Et à l'époque, il s'agissait pour Washington de récompenser les progrès du pays. Il y avait un nouveau président, un parlement, un premier ministre, une constitution même. Les Shebab avaient été chassés de Mogadiscio. Et puis, petit à petit, je vais pas aller dans le détail, mais les relations diplomatiques se sont remises en route, Juan.
Avec cet acte symbolique, la réouverture il y a quelques jours de cette ambassade américaine à Mogadiscio. Merci Sébastien Lemaître, bonne journée. Et je remercie évidemment Trésor qui nous appelait de Kisangani. Bonjour Florent. Florence Maurice.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, vous suivez notamment l'élection présidentielle de dimanche prochain en Tunisie, élection qui suscite évidemment des questions. Le contexte est pour le moins original, inédit. Bonjour Justin.
Bonjour Juan, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la RFI.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Ok. En Tunisie, la Cour a rejeté la demande de remise en liberté du candidat Nabil Karoui, candidat qualifié pour le second tour du scrutin présidentiel. Pourquoi? Plusieurs observateurs indiquent que si Nabil Karoui est maintenu en prison, il faudra reporter le scrutin.
Ah, Florence Maurice, alors effectivement, on a entendu ici et là certaines voix dire « il va falloir reporter le scrutin si Nabil Karoui reste en prison ». Effectivement, il reste en prison. De facto, il ne peut pas participer à la campagne électorale. Est-ce qu'un report du scrutin aujourd'hui est envisageable?
Là, à ce stade, Juan, je pense que l'hypothèse d'un report est vraiment très peu probable. L'instance chargée d'organiser les élections a confirmé le second tour pour ce dimanche. La campagne est en cours. Le vote est donc prévu dans 5 jours. On voit mal comment on pourrait revenir en arrière. Alors, pourquoi ces demandes de report? C'est le camp de Nabil Karoui qui l'ont demandé, au motif évidemment que leur candidat ne peut pas bénéficier de l'égalité des chances de mise en démocratie entre les deux candidats du second tour, lui et Kais Saïd, dans la mesure où il est derrière les barreaux en détention provisoire depuis le 23 août. Et c'est pour ça qu'ils avaient introduit plusieurs recours pour obtenir sa remise en liberté provisoire, mais ces demandes ont été rejetées.
Malgré tout, est-ce qu'un report aurait véritablement réglé le problème ?
C'est pas certain, puisque visiblement la justice n'est pas décidée à lui accorder cette liberté conditionnelle. Donc, reporter le scrutin pour permettre à Nabil Karoui de faire campagne, ça aurait signifié attendre la fin d'un procès qui pourrait prendre des mois, voire des années. Parce qu'il faut bien comprendre que la Tunisie est en transition hein, depuis la mort de l'ancien président. C'est le président du Parlement qui assure l'intérim depuis le 25 juillet. Et selon la Constitution, il a 90 jours pour organiser la présidentielle. Donc, au plus tard, le 25 octobre, donc on voit mal, hein, 13 octobre, 25 octobre, vraiment qu'est-ce qui peut changer dans ce délai.
Allez, Justin, vous avez une autre question.
Oui, Juan. Que prévoit la loi si Nabil Karoui est élu? Sera-t-il en position de diviser le pays?
Ah, que se passera-t-il si Nabil Karoui venait à remporter le scrutin? Que prévoit la loi, Florence Maurice?
Eh ben, elle ne prévoit rien, c'est bien le problème. Hein. Voilà, il n'y a pas de précédent. Parmi les experts, chacun y va de son analyse. Hein. Pour certains, dès l'annonce officielle d'une victoire à l'élection, il serait protégé par l'immunité et libéré. Pour d'autres, cette immunité ne s'appliquerait qu'une fois qu'il aurait prêté serment. Or, comment prêter serment depuis la prison? Voilà, il n'y a pas de réponse claire. En plus, la Tunisie, pour le moment, n'a pas de cour constitutionnelle. Donc, si on devait se retrouver face à ce cas de figure, ce serait l'impasse et la grande inconnue.
Oui, il faut quand même rappeler que les derniers sondages placent en tête Kais Saied. Il conserve son avance, donc difficile de voir comment Nabil Karoui pourrait remporter le scrutin. Et s'il le remporte, il risque d'avoir une impasse, non?
Oui, alors c'est justement ça peut-être le scénario qui inquiète le plus les observateurs, puisque Nabil Karoui et son camp ont clairement fait savoir qu'ils contesteraient l'élection si il ne sort pas de prison et ne peut pas faire campagne. Et c'est peut-être aussi pour ça hein, que certains plaidaient pour des reports, parce que voilà, ça remettrait, ça risquerait de remettre en cause la totalité de l'élection si le tribunal administratif décidait de lui donner raison sur ce recours, et ce serait un coup dur pour la jeune démocratie.
Élection présidentielle dimanche en Tunisie. Merci beaucoup Florence Maurice, Justin, bonne journée à Lubumbashi. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service France de RFI. Vous avez suivi la semaine dernière la manifestation des policiers dans les rues de Paris. On a justement des questions qui nous sont posées par Silver. Bonjour Silver.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Merci beaucoup à Joseph à Washington.
Bah, si nous écoute également, on le salue Joseph. Allez-y.
Très bien. À l'appel de l'intersyndicale, près de 27 000 policiers ont défilé la semaine dernière à Paris pour plus de considération, de reconnaissance et de moyens. Alors, première question, Juan, qu'est-ce qui explique ce profond malaise des policiers français et quelles sont les principales revendications des manifestants?
Oui, vous parlez de malaise, de colère, on peut parler, Simon Rosé.
Comment expliquer de la colère, oui.
Oui, comment expliquer le ras-le-bol des policiers en France?
Bah, c'est une situation au quotidien qui se détériore depuis des années aux policiers. Un ras-le-bol qui, en fait, c'est la réforme des retraites qui a été mettre la dernière goutte dans ce vase qui a débordé, puisqu'on envisage du côté du gouvernement de supprimer un des avantages qu'avaient acquis les policiers qui leur permettaient de partir à la retraite plus tôt. Un avantage qu'ils avaient acquis justement pour compenser un peu la pénibilité et la dangerosité de leur travail. Donc ça a été vraiment cette goutte d'eau. Ce qu'ils dénoncent depuis des années, hein, des conditions de travail qui se dégradent, du matériel qui est pas adéquat, des locaux vétustes, du manque de moyens, du manque de personnel, tout ce genre de choses. Donc c'était vraiment un melting pot de ras-le-bol.
Et des policiers qui sont de plus en plus sollicités depuis les attentats de 2015. Et puis
le G7, l'Euro de football, il y a eu
pas les mal, gilets jaunes.
Les gilets jaunes. Donc ils sont fatigués. Ça se traduit très dramatiquement quand même sur le terrain, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu 52 suicides de policiers depuis le début de l'année 2019. Donc c'est un peu tout ça qui s'est exprimé lors de cette marche de la colère la semaine dernière.
Le gouvernement est à l'écoute?
Le gouvernement dit qu'il fait déjà beaucoup, qu'il a augmenté le budget de la police d'1 milliard d'euros depuis 2017. Il promet de recruter 10 000 agents de police nationale et de gendarmerie supplémentaires d'ici la fin du quinquennat en 2022. Après, ce qui a été un peu dans ce dialogue qui commençait à se mettre en place, il y a eu l'attentat de la préfecture de police qui a un peu chamboulé les choses. Donc voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, les policiers, lors de la marche de la colère, le prévenait déjà, ils seraient prêts à remettre le couvert et à battre à nouveau le pavé si c'était nécessaire, s'ils estimaient que leurs revendications n'étaient pas entendues.
Ils étaient 27 000 hein, la semaine dernière à Paris. Il fallait remonter, je crois, au début des années 2000.
2001, oui.
2001, exactement, pour retrouver une telle mobilisation.
Ce qui est intéressant, c'est pas un fait divers cette fois qui a lancé ça. En 2001, c'était le meurtre de deux policiers qui avait provoqué la marche. C'était pas le cas cette fois.
Ouais. Merci Simon Rosé. Bonne journée, Silver.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.